Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous commençons une nouvelle série intitulée « La mort, est-ce la fin de tout ?» La mort, est-ce la fin de tout ? Chers auditeurs et chères auditrices, cette série d'études est un réconfort pour les personnes en deuil, une préparation pour les mourants. On peut dire un encouragement et un soutien pour les bien-aimés, une espérance pour ceux qui sont désespérés. La mort, personne n'aime y penser. Qu'est-elle vraiment la mort? Qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire la décrit comme étant la cessation de toute vie. Mais est-ce là vraiment tout? Cessons-nous réellement d'exister? N'y a-t-il aucune espérance d'une vie après la vie? Chers amis, pour le vrai chrétien, la mort n'existe pas, car la mort, c'est la cessation de la vie. Or, à aucun moment le chrétien ne cessera d'exister. La vie continue après la transition où l'esprit quitte son corps charnel, temporel, avec toutes ses infirmités, ses faiblesses et sa vieillesse, pour prendre possession de son corps céleste, qui ne vieillit pas et qui est libre de toute douleur, de toute tristesse et de tout souci et crainte. La mort, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, est en quelque sorte notre amie. Elle est la servante de Dieu qui coupe le fil d'argent qui nous maintient prisonniers de ce monde. Il est encore plus approprié de la considérer comme étant un guide angélique qui nous conduit jusqu'aux portes du ciel. Quand nous comprenons la gloire et la joie qui nous attendent dans les cieux, alors nous soupirons et attendons son appel. Et quand il vient, nous l'accueillons avec joie. Il n'y a aucune personne qui ait regretté avoir fait ce voyage avec elle pour entrer dans la présence de Dieu. Tous ont cherché et ont désiré rester dans leur nouvelle demeure, préparée pour nous par Jésus. Ils ont voulu continuer à vivre dans leur nouveau corps céleste. Ceux qui ont dû revenir sur terre ont généralement demandé à rester au ciel pour y attendre le matin de la résurrection, ce fameux jour béni où ils recevront leur corps terrestre alors qu'il sera glorifié et recréé. Ce qui sera leur éternel triomphe sur les douleurs de l'instant, ou on peut aussi dire où leur âme et leur esprit ont été séparés de leur corps. S'il existe une chose qui soit plus terrible que la mort, eh bien c'est l'incapacité à mourir quand la souffrance est extrême et qu'il n'existe aucun espoir de la diminuer. Ainsi dit Offenbarung, c'est-à-dire l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 6, nous dit ceci, « Que pendant la grande tribulation, les hommes supporteront de grandes souffrances à cause des plaies qui viendront sur le monde et qu'ils voudront mourir. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront mourir. » Et la mort fuira loin d'eux. Apocalypse chapitre 9, verset 6. Chers amis, Jésus a décrit ce que nous appelons la mort comme n'étant que du sommeil. Jésus a essayé d'expliquer cette vérité quand il était sur terre. C'est ainsi qu'il a dit à Marthe. Il a dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. » Saint Jean, chapitre 11, versets 25 et 26. Voyez-vous, quand Jésus a su que Lazare était entré dans l'au-delà, il a dit à ses disciples, retournons en Judée, Saint Jean chapitre 11, verset 7, il voulait s'y rendre parce qu'il aimait Marthe et Marie, ainsi que leurs frères. Il savait qu'ils avaient besoin de lui, et quand ses disciples essayèrent de le retenir pour qu'il n'y aille pas en Judée, parce que il est vrai que la plupart de ses ennemis y vivaient, eh bien il leur a expliqué qu'il lui restait encore un peu de lumière du jour pour y accomplir quelques miracles. Ainsi, pour expliquer l'urgence du temps, il dit à Lazare, notre ami, il s'est simplement endormi. Mais je pars maintenant pour le réveiller. Saint Jean, chapitre 11, verset 11, version allemande. Quelle merveilleuse manière de décrire la résurrection d'entre les morts. Voyez-vous, pour Jésus, ce que nous appelons la mort n'était rien que du sommeil. Et se réveiller de son sommeil, c'était évidemment le miracle de la résurrection. Toutefois, parce que ses disciples ne le comprenaient pas, il a dû utiliser leur vocabulaire à eux. Il a dit « Lazare est mort, mais allons vers lui, allons vers lui. » Saint Jean chapitre 11, versets 14 et 15. A-t-on jamais entendu parler de quelqu'un qui rende visite aux morts? Si après avoir appris la mort de l'un de vos amis, et que vous disiez « Oh, je vais lui rendre visite », eh bien les gens ne vous regarderaient-ils pas, on se le comprend, ils vous regarderaient, d'une manière très bizarre. J'ai eu de la peine à vous dire ça. Voyez-vous, chers amis, pardon, aux yeux de Jésus, la mort du juste n'est pas la mort, parce que celle-ci a été vaincue au travers du Christ. Donc Jésus domine sur la mort. Il pouvait déjà voir l'esprit de Lazare se réjouir dans les cieux, et oui, et il savait qu'une fois arrivé à Béthanie, il devrait le ressusciter et le faire sortir du tombeau. Aussi voulait-il lui accorder quelques jours de vacances en plus au ciel. Chers amis, lorsque Jésus arriva dans la maison de Jaïrus, où leur fille reposait, et qu'il a pu voir ceux qui pleuraient et qui se lamentaient, il leur a dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Saint Luc, chapitre 8, verset 52. Alors ils se sont moqués de lui, avec mépris. Mais leur raillerie ne l'ont pas empêché de le réveiller, de la réveiller, la jeune fille. Par contre, ils n'ont pas pu voir le miracle, tout simplement, car Jésus les a fait sortir. Et là, il prit sa main, il prit la main de la jeune fille, qui était toute molle, et l'appela. « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva. Saint Luc chapitre 8, versets 54 et 55. Ça, ce fut une grande transition pour elle, c'est-à-dire passer de la maison des bénis au foyer de ses parents. Elle est revenue dans le foyer de ses parents. Mais elle fut tout de même heureuse d'être revenue quand elle a vu la joie qu'elle leur procurait d'être en vie. Or le ciel est un endroit merveilleux que Jésus a préparé pour notre bonheur éternel. Chers amis, vous pourrez comprendre tout cela beaucoup mieux si vous écoutez la série de CD de l'extraordinaire histoire qui est vécue de Marietta. Elle a vécu cela. Veuillez, s'il vous plaît, écouter cette série. Ça vous aidera à mieux comprendre. Alors que Jésus était avec ses disciples dans la chambre haute, la dernière nuit de son parcours terrestre, il se mit à leur parler du ciel et il leur dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Gloire à Dieu. » Saint Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Il a été créer non seulement une merveilleuse maison éternelle pour nous, mais il a également créé des demeures qui dépassent par leur splendeur tout ce que nous pouvons imaginer. Il attend pour nous accueillir aux portes des trésors, pour nous guider au travers des rues pavées d'or, pour nous présenter au sein du passé, ainsi qu'à celui qui est son Père, mais aussi le nôtre. Il attend impatiemment que nous venions à lui, comme le dit la sainte parole de Dieu. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Psaume 116, verset 15. Oui, tout le ciel attend pour vous souhaiter la bienvenue. La mort des saints est une joie pour Dieu. Que doit-il ressentir quand il nous voit remplis de crainte à l'idée de mourir? Nous qui connaissons quelque peu la beauté et la paix de notre demeure éternelle, quand nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'éviter, alors que nous semblons tellement aimer ce monde et préférer à Dieu nos compagnons d'ici-bas, n'en est-il pas attristé? Se pourrait-il que nous ne ressentions pour lui aucun attrait parce que nous avons passé bien peu de temps dans sa présence? Ou si lui préférons-nous nos amitiés et nos relations terrestres? Avons-nous vraiment perdu notre premier amour pour lui? Si toutefois, nous l'avons jamais eu. En cherchant à mourir hors du temps de Dieu? Sommes-nous prêts, prêts à prendre le risque de rater le ciel en voyant que la vie après la vie est si désirable? Ne devrions-nous pas chercher à échapper à notre présente existence terrestre? Eh bien non, mille fois non, car notre existence actuelle dans ce corps et qui porte le nom de la vie n'est rien d'autre qu'un court laps de temps pris sur l'éternité. Ce temps nous a été alloué, il nous a été alloué pour vivre ici-bas, sur terre, cela pour nous donner le privilège d'accomplir les buts et les plans de Dieu pour cette planète. Si nous pouvions seulement entrevoir les grands honneurs et les récompenses qui seront les nôtres pendant toute l'éternité, pour toutes les bonnes actions accomplies et pour toutes les victoires remportées, eh bien nous serions alors reconnaissants envers Dieu pour l'occasion de vivre sur cette terre. C'est avec joie que les anges accompagneront nos esprits et notre âme quand ils quittèrent les cieux, au moment où ceux-ci entrèrent dans ce que fut le commencement de notre existence terrestre, c'est-à-dire quand l'étincelle de vie divine pénétra dans nos corps qui n'étaient alors encore qu'informes à l'instant de notre conception. Le sixième jour de la création, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa donc l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. Quel merveilleux mystère d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela dépasse l'étendue de toute notre imagination, de toute notre compréhension et de tout notre entendement. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Romains chapitre 11, verset 33. Chers amis, quelle est cette étincelle de vie, je dis de vie divine, que nous possédons tous maintenant? Eh bien, ce nouvel être humain divinement créé possède instantanément l'étincelle de vie divine éternelle que nous appelons esprit. Il est parfois également appelé le souffle de Dieu, le souffle de Dieu de notre Père Céleste, pour habiter la forme corporelle qui se développe maintenant dans le ventre de notre mère. Et cette forme provient-elle des entrailles de notre Père terrestre et est merveilleusement décrite ainsi? Il est dit: mais l'Éternel, lui, à Abraham, adressa la parole et dit: celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Notez Genèse chapitre 15, verset 4. Quand Dieu créa Adam, il insuffla en lui le souffle de vie. et celui-ci est devenu une âme vivante. Genèse chapitre 2, verset 7, là il est déclaré dans Genèse chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insouffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint ainsi un être vivant. Le mot pour âme est nefesh, c'est-à-dire une créature qui respire. Ça veut dire souffle, respiration, vie, âme et esprit. Et c'est cette nefesh, l'âme, qui permet à l'homme de vivre, d'où il tire son souffle. Mais ce mot signifie aussi vie, c'est-à-dire à savoir le principe vital qui, s'il disparaît, mène évidemment à la mort. Ainsi la nefesh peut être versée avec le sang, car Lévitique chapitre 17 verset 11 nous dit « Car l'âme nefesh de la chair est dans le sang, et moi je vous l'ai donné sur l'autel pour faire propitiation pour vos âmes, car c'est le sang qui fait propitiation pour l'âme », version Darby. Et voilà pourquoi c'est un péché de verser le sang innocent. La mort peut en résulter. Et quand le prophète Ésaïe prophétise sur le Messie, il dit « Parce qu'il aura livré son âme à la mort », Ésaïe 53, verset 12, de nouveau version Darby, ce qui signifie qu'il remporte ainsi la victoire sur la mort et devient celui qui porte les péchés du monde entier. Et c'est pourquoi je lui assignerai une part avec les grands et il partagera le butin avec les forts parce qu'il aura livré son âme à la mort. Version Darby. Il déclare aussi qu'il partagera cette victoire avec tous ceux qui sont forts en Dieu. Dans la Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme, nefesh, une âme vivante », version Darby. Quand Dieu souffla dans les narines de l'homme après avoir créé son corps, eh bien ce dernier est devenu un être vivant qui possède maintenant une âme vivante, vivant en vie. Il est donc question d'un être qui a en lui la capacité de vivre éternellement. Les Hébreux, ont perçu l'homme de manière holistique, c'est-à-dire qu'il voyait le corps, l'âme et l'esprit comme un tout unifié. Chaque créature vivante dans les narines de qui Dieu insouffla la vie est précieuse devant lui et elle devrait être également pour nous. Dans l'Ancien Testament, la vie était associé avec la prospérité, la richesse et la vitalité. Dans l'Ancien Testament, la mort était considérée comme étant un châtiment qui venait de la conséquence des péchés de nos ancêtres. Mais Christ est venu pour annuler sa puissance sur nous à tout jamais. Et il l'a fait en mourant. Mais ce n'est pas la mort qui a pris Jésus, car elle n'avait aucun pouvoir sur sa vie terrestre. Oh non, voyez-vous, Jésus ne fut ni tué par les Juifs, ni par les Romains, pas même par Satan. Personne, absolument personne, ne le tua. il ne mourut ni d'avoir été crucifié, ni d'une perte de sang, ni d'un empoisonnement du sang, ni de suffocation. Il n'expira pas non plus à cause de ses souffrances extrêmes et de sa douleur. Jésus, voyez-vous, n'est pas mort d'un cœur brisé, mais avec un cœur brisé. Je répète, Jésus n'est pas mort d'un cœur brisé, mais il est mort avec un cœur brisé. La mort n'a pas tué Jésus. Il a conquis la mort en livrant son esprit hors de son corps et en le remettant au Père. Et ce faisant, il a vaincu le diable qui avait le pouvoir de le tuer. Et c'est ainsi qu'il lui prit les clés de la mort et du séjour des morts, c'est-à-dire le Hadès, selon Apocalypse chapitre 1, verset 18, qui proclame « Moi, je suis le premier et le dernier, je suis le vivant, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens donc les clés de la mort et du séjour des morts, le Hadès, et parce qu'il a vaincu la mort, celle-ci n'est plus une terreur pour le véritable enfant de Dieu. La vie est une possibilité de temps en or qui nous est accordée sur l'éternité. Nous devrions chérir la possibilité en or qui nous est donnée par Dieu de vivre dans ce monde, de prendre part à l'histoire de ce monde pour la période de temps qui nous est allouée. Dans sa fameuse pièce « Comme il vous plaira » qui a été écrite en 1599, William Shakespeare dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, ne sont que des acteurs. Ils ont leur entrée et ils ont leur sortie. » Chers amis, le rôle que vous jouez dans le théâtre qui est la vie est bien plus précieux que celui de tout acteur ou actrice qui monte sur les planches pour y jouer. Chacun de nous a reçu l'honneur et le privilège béni de venir apporter la joie, le réconfort, la pureté, l'espérance, la lumière et l'amour dans un monde pécheur qui est enténébré et plein de tristesse. La vie est cette occasion unique, oui, une seule fois dans toute l'éternité, de présenter l'amour des cieux là où le péché, où la haine et le mal dominent sur les âmes humaines. L'amour est le signe véritable qui montre si la vie de résurrection du Christ, Jésus, habite vraiment en nous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 14. Si nous n'avons pas l'amour, c'est le péché qui domine sur nous, et celui-ci a le pouvoir de tuer. C'est dans notre capacité à aimer que se trouve notre véritable qualification pour la vie éternelle. Chers amis, pourquoi la réincarnation est erronée, et cela au point d'en être un véritable blasphème. Je essaye de vous expliquer. Voyez-vous, parmi toutes les formes de vie existantes, celle qui est la plus unique et la plus précieuse, c'est l'homme. Il est le seul à avoir été créé à l'image de Dieu. même s'il est vrai que les animaux, les oiseaux, les poissons et les autres formes de vie sont si merveilleuses et évidemment précieuses, aucune parmi elles ne peut être comparée à l'homme qui est créé à la ressemblance de Dieu, que vous y croyez ou pas. Il possède plus que de l'oxygène, beaucoup plus, dans ses poumons. Il contient cette étincelle de vie divine qui est unique et qui est d'une grande excellence et dont la vie n'a pas de fin. Nous sommes faits non seulement à l'image de Dieu, mais nous possédons aussi la vie de Dieu dans nos esprits. Dans l'ordre de Dieu, l'homme est le plus élevé de tous les êtres qui ont été créés. Aucune comparaison n'est possible entre la vie d'un homme et celle de tout autre être dans la création de Dieu, qu'il s'agisse d'un animal ou de végétaux, ou si nécessaire soit-il, ou si l'enseignement de la réincarnation par certaines religions et certaines philosophies, à savoir le retour de l'âme sur terre sous la forme d'une bête ou d'une plante ou de toute autre créature, est non seulement erroné, mais il est blasphématoire parce qu'il dégrade Dieu. Par un tel enseignement, le Créateur est rabaissé au niveau d'un serpent, d'un insecte ou même d'une plante. Ceux qui croient et qui enseignent une telle hérésie dans ces temps éclairés sont comparés aux hommes qui vivaient à l'époque de l'apôtre Paul et qu'il décrit du reste dans Romains chapitre 1 verset 23. Il dit « Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Romains chapitre 1 verset 22. La crainte et le désespoir que cette gêne infinie de renaissance engendre, ça c'est un blasphème. Dans certains endroits du monde, il est permis aux rats, oui aux rats, de vivre et de se multiplier en dépit du fait qu'ils détruisent les cultures, les récoltes, malgré le fait également qu'ils répandent parfois des plaies, juste parce que il pourrait s'agir d'un bien-aimé récemment décédé, qui pourrait être un maillon de cette chaîne de renaissance. Or, voyez-vous, ce paganisme est dénué d'espérance. Seul le christianisme, que vous le croyez ou pas, détient la vérité qui brille au milieu des ténèbres des vaines philosophies de l'homme, et cela grâce à cette lumière qui est allumée par l'auteur de la lumière et de la vie. Il en résulte que le paganisme est dénué de toute vie. En lui, il n'y a que les ténèbres, il n'y a que l'ignorance, la crainte, le désespoir, le vide et la mort. Jésus est venu sur terre pour bannir l'esclavage de la crainte de la mort. Je répète, Jésus est venu sur terre pour bannir l'esclavage de la crainte de la mort. Ceux qui croient à la réincarnation, cela les conduit à la vénération des ancêtres parce qu'ils redoutent l'éventuel mécontentement de la personne qui est morte. Ils craignent que celle-ci revienne pour les hanter. Et cette crainte place les habitants sous un terrible joug d'esclavage. Mais s'ils entendent l'Évangile et acceptent Jésus comme leur sauveur, alors ils sont merveilleusement libérés de cette crainte de la mort qui les avait rendus esclaves pendant toute la durée de leur vie. Une fois que ces âmes précieuses ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, elles veulent toujours nettoyer leur maison. Oui, ils veulent la nettoyer de toute influence et de tout contrôle démoniaque. Et c'est ainsi que l'auteur de la lettre aux Hébreux écrit « Et encore, je placerai ma confiance en lui. Et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. » C'est écrit dans Hébreux, chapitre 2, versets 13 à 15. Oui, nous remercions Dieu pour son Fils Jésus qui est venu dans ce monde perdu et qui a ordonné une fois de plus que la lumière soit. Et avec l'apôtre Jean, nous pouvons réellement apporter ce témoignage. Elle, la lumière, c'est-à-dire Jésus, a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, oui, une gloire comme celle du Fils unique venant du Père. Johannes, Saint Jean, chapitre 1, verset 14. Et c'est cette lumière de la vérité concernant la mort des justes qui a libéré les disciples du Christ, qui a libéré les disciples du Christ de l'aiguillon de la mort. Tout comme l'apôtre Paul l'écrit à l'église de Corinthe, « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Chers amis, vivons-nous un mensonge? Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours entendu mes aînés chanter sur le ciel. Ils chantaient comme s'ils en avaient la nostalgie. Oui, comme s'ils avaient du mal à attendre d'y aller. Ils dépeignaient le ciel comme étant un merveilleux lieu de joie et de bonheur éternel. Il parlait d'un endroit dénué de tristesse, dénué de douleur, dénué de problèmes, de séparation, de solitude et d'affliction d'aucune sorte. Lors des funérailles, eh bien, les prédicateurs prêchaient le ciel, ils le décrivaient avec des larmes qui coulaient le long de leurs joues, et face au corps du bien-aimé décédé, qui reposait devant eux dans le cercueil, ils expliquaient son grand bonheur d'être désormais dans les cieux. Et c'était à la fois merveilleux et très réconfortant. En avançant en âge, c'est bien mon cas à 89 ans, j'ai appris à chanter moi aussi ces chants qui parlent des cieux. Je me suis entendu parler moi-même de la patrie des bénis et des affranchis, de ce havre de paix pour tous ceux qui sont fatigués. Et il m'est arrivé d'envier ceux qui y partaient d'avoir cette nostalgie de vouloir retrouver mes bien-aimés laissés en arrière, ainsi que le Seigneur Jésus qui m'aime et qui est mort pour moi. En terminant cette première partie de cette série d'études, j'aimerais vous dire que, en vieillissant, plus encore, et je l'espère en gagnant maintenant en sagesse, j'espère de gagner en sagesse, quelque chose qui va commencer à me troubler, c'est que nous ne vivons pas ce que nous prêchons parfois. Je suis triste que je reconnais que parfois nous ne vivons pas ce que nous prêchons. Nous avons peur de la mort. Nous n'en parlons qu'avec murmure et effroi, si toutefois nous en faisons état d'ailleurs. Nous vivons même dans un déni total quand nos bien-aimés souffrent d'un mal incurable. Comme pour les vieillards et les infirmes, nous parlons comme s'ils allaient vivre indéfiniment, ce qui est un mensonge, avec leur corps handicapé, avec leur perte de vision, perte du goût, de l'ouïe et des joies habituelles de la vie. Et nous les plaçons souvent au loin dans les résidences du quartier qui s'appelle le quatrième âge, si possible loin de tout pour que pas qu'on puisse les voir et pour pas qu'ils nous contaminent, pour tenter de les oublier. Et nombre d'entre eux finissent le restant de leur jour totalement oubliés de tous, excepté de Dieu, excepté de Dieu. Amen. Et chers amis, je vous recommande, pour mieux comprendre cette série que nous avons commencée, s'il vous plaît, veuillez essayer de trouver sur Internet www.bibleexplique.ch la série concernant Marietta, une série de vérité absolue, une chose vécue hors du commun. Prions maintenant ensemble. Dieu de toute lumière, quelque chose de plus doux et de plus heureux ne viendra-t-il jamais remplacer dans nos cœurs la foi et l'espérance? C'est la vision qui les remplacera quand ce ne sera plus le temps de la terre, mais l'éternité du ciel. Oui, un jour viendra où toute cette longue histoire de l'ignorance humaine aura passé. Un jour viendra où nous arriverons à la jouissance de la lumière éternelle, où nous nous pénétrerons de sa chaleur et de sa vie, comme on voit dans un champ de blé au lendemain des orages, les épis se redresser lourds et revêtus d'or, et se placer avec orgueil et comme avec plaisir sous le soleil. Seigneur, tu dis, consolez-vous de la patience et de l'attente dans la pensée de cette vision heureuse, ou comme dit la théologie, de cette vision béatifique dont nous tenons déjà la substance et la preuve dans notre foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, quelle que soit les longueurs du chemin. Marchez, chers voyageurs, car tu le dis en vérité, les visions de la patrie valent toute la peine qu'elles coûtent. Les voiles tomberont celui qui est la vérité et la vie, se montrera lui-même et ravira les regards de notre âme. Ô moment bienheureux, ô moment éternel, voir, comprendre, voir non pas à la dérobée, à peine, d'un regard furtif et même objet éternel de la vision, vérité certaine, oui, complète, dévoilée, se rassasier de cette connaissance avec le don bienheureux de ne s'en lasser jamais. Et puis, comme il y aura toujours l'infini entre Dieu et l'homme, et que le mouvement du fini vers l'infini est incommensurable et éternel, avancer toujours, grandir toujours, connaître toujours des progrès dans la connaissance de Dieu, dans le rassasiement de l'intelligence, dans la contemplation éternelle de l'éternelle vérité. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et je vous recommande encore, si vous pouvez, écouter la série concernant l'histoire véritable vécue de Marietta sur www.bibleexplique.ch. Au revoir, chers amis. Que le Seigneur vous bénisse. C'est mon désir le plus profond, car il vous aime. Gloire soit rendue à son Saint-Nom. Au revoir.